Chapitre 10 La vocation de Neville Landless. Vous semblez mieux, je puis presque dire que vous êtes très bien, et vous ne pouvez imaginer combien je suis heureux de vous voir redevenir le brave et brillant jeune homme d'autrefois. Encore quelque temps, et vous serez tel que je vous vis à Cloisterham il y a un an. C'est ainsi que parlait M. Crisparkle de sa voix agréable et joyeuse en entrant dans la chambre de Neville Landless. Il venait lui rendre une de ses visites, naguère si désagréable, à la bergère en porcelaine de Saxe. Hâtons-nous de dire que, après une explication qui avait eu lieu entre son fils et elle, la bergère ne songeait plus à Neville avec la même crainte et le même déplaisir. Quelques jours s'étaient passés, cependant, depuis la dernière visite du chanoine, ce qui rendait celle-ci un peu plus sérieuse que de coutume, car ce n'était pas sans anxiété que le chanoine et son élève avaient supporté cette courte séparation. Neville se leva pour recevoir son mentor et ami avec une vivacité qui rappelait en effet ses anciennes allures. Il lui serra la main et quelque chose dans le contact de cette main que n'agitait plus aucune fièvre ni aucun tremblement nerveux invita M. Crisparkle à parler de ce ton joyeux. « Ah, pensez-vous cela vraiment, monsieur ?» répondit le jeune homme, montrant une vive joie de cette observation et de la façon surtout dont elle était faite. « Ainsi, vous pensez que je vais mieux ? Dites ce que vous croyez. Est-ce de corps seulement ? Est-ce d'esprit ? Ou est-ce de tous les deux ?»« De tous les deux, Neville, » répondit M. Crisparkle, prenant la chaise que lui offrait Neville, avec un geste empressé et l'invitant à son tour d'un signe à se rasseoir auprès de lui. « De tous deux, » reprit le chanoine, « et d'ailleurs, dire l'un, c'est aussi dire l'autre. Vous n'avez pas été véritablement malade de corps, mais le chagrin que vous avez éprouvé a produit naturellement une certaine impression sur les nerfs qui, vous le savez, sont les serviteurs de l'organisation mentale. » « Oui, c'est vrai, » répondit le jeune homme en poussant un soupir qui amena tout de suite un reproche du bon chanoine. « Allons, allons, plus de ces tristesses, mon jeune ami, ou je serai obligé de me dédire. »« Non, monsieur, vous auriez tort de changer d'avis à mon sujet. Je vous assure que ce soupir était affaire d'habitude autant que de sentiment. Vous ne m'avez pas bien compris. Je viens de sentir un peu la honte de ma faiblesse. J'allais vous en faire mes excuses. »« Vous n'en avez pas besoin, » poursuivit gaiement le chanoine. « Je pense que si je ne vous avais pas interrompu, vous alliez me dire ceci. Je suis honteux d'avoir permis à l'esprit de faire tant de mal à mon corps. Est-ce cela ? Oui. Vous auriez sans doute ajouté que l'homme devrait toujours se rendre capable de maîtriser ses facultés mentales. C'est bien assez qu'il ne puisse toujours rester le maître de ses facultés physiques. Aussi, vraiment, il y a plus de honte à laisser les premières s'affaiblir que les secondes succomber. Ai-je bien rendu votre pensée ? Parfaitement, monsieur, vous êtes très bon de me croire remis matériellement de ce qui a pu m'affecter. Et moi, je suis heureux de pouvoir vous dire que vous ne vous trompez pas, que je suis en effet bien plus près de la guérison qu'il y a un mois et beaucoup plus qu'il y a 3 mois. Mais vous avez raison, je dois être bien plus honteux d'avoir presque perdu l'esprit par suite de mon peu de courage que je ne devrais l'être d'avoir souffert pendant le même temps de la fièvre ou d'une jambe cassée. N'est-ce pas cela aussi votre pensée à vous, monsieur ?»« Hum !» répliqua M. Crisparkle. « Vous êtes beaucoup mieux sans doute, Neville. Rien ne le prouve autant que la netteté de vos raisonnements. Vous avez retrouvé la puissance démonstrative. Mais permettez-moi pourtant de vous faire voir que vos arguments ont encore un côté faible. » Vous êtes enclin à prendre la cause pour les faits. Il peut y avoir quelque honte dans la cause, tandis qu'il ne peut pas y en avoir dans les faits. Pourquoi, je vous le demande, une affection mentale serait-elle plus répréhensible qu'une affection corporelle ? Parce que l'affection mentale suppose l'existence d'une faute ou d'une erreur qui y a conduit. Mais les maladies du corps ne peuvent-elles pas être engendrées aussi par une erreur ? Vous avez parlé d'une jambe cassée. Si votre jambe a été cassée par la chute d'une ardoise tombant d'un toit, ou parce que vous serez tombé dans un trou qu'un imprudent aura ouvert sous vos pas, ou par tout autre accident ne venant pas de votre fait, alors il n'y a pas de honte ni dans la cause ni dans les faits. Mais supposez que vous vous soyez cassé la jambe en grimpant quelque part où vous n'aviez ni le droit ni le besoin d'aller, ou bien encore dans une lutte que vous auriez provoquée ou négligée d'éviter. Supposez que la fièvre dont vous parliez tout à l'heure ait été produite par des excès qui ne fassent pas honneur à votre tempérance ou parce que vous vous seriez exposé à un accident que vous auriez pu éviter avec un peu de jugement. N'y aurait-il pas dans ces cas-là autant de honte attachée au mal physique qu'à une égale quantité de mal moral? Qu'en dites-vous?
Sans aucun doute, monsieur, répondit Neville. J'ai mérité la leçon que vous venez de me donner, je l'ai méritée même plus sévère. Je pense que je suis presque remis, vous êtes assez bon de votre côté pour le croire aussi. Et voilà qu'en moins de 5 minutes, je prouve que j'ai pu faire des progrès dans la bonne voie, mais que je ne suis pas du tout guéri. Il y a encore un peu de sentiment morbide dans tout ceci, monsieur. Je le crains bien.
Et moi, j'ai fort peu de craintes à ce sujet, répondit le chanoine. Non, la crise est passée, je n'en doute plus. Le malade, avec l'aide du ciel, sera bientôt tout à fait rétabli. Il a été imprudent, comme j'ai dû le lui dire au moment où il contracta le mal, mais il a souffert et le voilà purifié.
Souffert? Oui, j'ai souffert, monsieur, je le crois, répliqua le jeune homme, dont le visage en ce moment montra que le temps passé n'était pas si loin. Pas plus que je ne le méritais, mais plus que je ne me serais cru capable de souffrir jamais sans en mourir. Il y avait encore une bien vive sensibilité dans les paroles et dans les manières de Neville, et le chanoine ne s'y méprit point, mais il n'en éprouva pas la même émotion poignante que certains jours d'autrefois, quand il avait entendu le cri déchirant poussé par le jeune homme au milieu des premières ténèbres de son désespoir. Il le regarda donc avec un intérêt affectueux que Neville ne comprit guère, et il ne rompit pas le silence. Neville reprit « J'espère que vous ne me jugerez pas trop sévèrement, monsieur, si j'ajoute quelques mots que je dois dire par justice envers moi-même. » Non, ce n'est pas le mot à employer. Je devrais dire pour justifier votre bonne opinion, monsieur. Si je me connais bien, ma plus grande faiblesse est passée et avec elle la pire souffrance. Je suis fixé maintenant sur mon sort. J'espère et je crois que je le supporterai comme un homme. Avec l'aide d'un plus puissant que vous, Neville, avec l'aide de Dieu, ne l'oubliez pas.
Merci de me le rappeler, monsieur, mais je crois pouvoir vous prouver que j'ai fait entrer cet élément principal dans tous mes calculs. J'allais dire que je me suis montré hypocrite depuis mon malheur. Mais peut-être le mot hypocrisie n'est-il pas le mot propre pour qualifier une tromperie que j'ai exercée surtout envers moi-même et presque sans le savoir.
« Franchement, mon cher Neville, dit le chanoine, votre commencement est un peu vague, mais nous verrons la fin. »«
Pardonnez-moi, monsieur, c'est bien vague, je le sais, confessa le jeune homme, dont la rougeur aurait suffi à prouver une santé meilleure que son ami ne la lui avait vue depuis bien des jours. Le fait est que je joue avec les mots et que je ferais bien de perdre une habitude qui ne me sied guère. Je vais donc m'exprimer plus clairement. » Vous avez cru, je n'en doute pas, et je l'ai cru à moitié moi-même, que mon chagrin était dû principalement à la honte de la fausse accusation qui pesait sur moi. En réalité, l'origine en était différente. J'étais malade d'amour pour une femme dont il est inutile de prononcer le nom, et à demi fou de voir que les circonstances m'empêchaient de pouvoir jamais le lui dire. L'autre sentiment, je le sais maintenant, était entièrement secondaire, si même il ne me servait pas de prétexte. S'il avait existé seul, je l'aurais rejeté avec mépris, peut-être avec colère. J'étais déjà bien abattu quand ce second sentiment vint s'ajouter à l'autre, et cela suffit pour m'écraser.
Je le pensais bien, Neville. J'ai quelque expérience sur votre facilité à nous tromper nous-mêmes quand notre amour-propre est en jeu. Mais je vous en prie, pardonnez-moi de vous avoir interrompu et continuez, dit doucement M. Crisparkle.
Me comprenez-vous tout à fait maintenant, monsieur, reprit Neville.
Comprenez-vous combien était lourd le fardeau que je portais ? Vous ne pouvez bien le sentir. Que Dieu épargne à votre bon cœur la souffrance de mettre toutes vos affections terrestres là où elles ne peuvent pas prendre racine, de tourner les yeux de votre cœur vers un objet qu'ils n'ont aucun droit de posséder jamais, et d'où ne pourrez-vous venir que désappointement et souffrance. Je ne vous souhaite pas, monsieur, d'apprendre à vos dépens ce qu'il en coûte de s'égarer dans cette route sans but. » Le chanoine demeura de nouveau silencieux devant la profonde émotion de Neville. Ce qu'il rendait muet, c'était un sentiment très différent peut-être de la contemplation des infortunes du jeune homme. Quand enfin il répondit, ce qu'il ne fit qu'au bout d'un moment, sa voix était basse et douce. Il était pâle, comme si insensiblement, tout son sang si chaud, si vaillant, si riche, avait reflué vers son cœur. Et il ne se montra guère moins hypocrite alors que Neville lui-même un instant auparavant. Mais laissant cette faute se décider entre sa conscience, le bon évêque de son diocèse et ses puissances célestes qui pèsent également nos actions. « Oui, Neville, dit-il, oui, mon cher jeune ami, je me joins à vous pour souhaiter de ne jamais connaître plus que je ne le fais à cette heure les souffrances d'un amour sans espoir. Mais je crois que j'ai assez de sympathie, de véritable amitié envers vous pour bien comprendre et bien sentir vos... Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Vous m'avez bien dit, vos souffrances passées. Oui, monsieur, je me suis servi de cette expression et je l'ai faite à dessein, répondit le jeune homme en se redressant avec orgueil. Je suppose que je dois souffrir plus ou moins toujours, mais je remercie Dieu que la plus grande souffrance soit passée. Je peux me dire enfin, oui, il n'y a pas de meilleure expression encore ici que le mot vulgaire, je peux me dire guéri. Et avec la guérison de l'esprit, la guérison du corps est venue comme je l'espérais. C'est parfait. Vous ne vous doutez pas encore quel bien en résultera pour vous. Mais je veux me joindre avec vous pour remercier avec ferveur le Tout-Puissant. Serais-je indiscret en vous demandant si vos études n'ont pas contribué à changer la direction de votre esprit et à vous faire avancer d'une façon si rapide depuis le peu de temps que je ne vous ai vu ? Vous n'êtes nullement indiscret, monsieur, et je suis heureux d'être forcé de vous répondre, répliqua Neville bravement, quoiqu'il parlât d'un ton ému. Non, mes études n'ont pas tout fait, monsieur, il s'en faut bien. Pourtant, ne me condamnez pas avant de savoir bien ce que je veux dire quand je vais vous avouer que je dois beaucoup à une passion contre laquelle on nous met toujours en garde, l'orgueil. L'orgueil, en vérité, s'écria le chanoine. Oui, l'orgueil, réveillé en moi, ou peut-être nouvellement né. C'est ce sentiment qui m'a permis de continuer à aimer la femme qui en aimait un autre et qui allait l'épouser. En aimer un autre, Mademoiselle Budd, pardonnez-moi de prononcer son nom, elle, en aimer un autre, est sur le point de se marier. Neville, vraiment, vous m'avez coupé la respiration. Et, en effet, le chanoine reprit haleine avec plus de difficulté qu'après un de ses fameux plongeons dans l'écluse de Cloisterham. Oh, monsieur, je n'ai pas le droit de trahir les secrets des autres, et je ne me le permets que lorsque j'y suis forcé pour ma défense personnelle. Une explication alors devient inévitable. J'ai peut-être aujourd'hui cette excuse, mais je n'aurai besoin que de prononcer un nom, et vous en saurez autant que moi, peut-être davantage. Monsieur Tartare. Monsieur Tartare, vous en êtes sûr ? Neville Landless allait répondre pour confirmer ce qu'il venait de dire, quand arriva un incident qui retarda sa réponse et qui devait la changer ensuite. On frappa légèrement à la porte. C'était une main de femme, à en juger par la délicatesse du cou. Neville bondit vers la porte, ouvrit, et Helena entra. Peut-être n'avait-elle pas entendu le bruit de deux voix. Elle ignorait sûrement la présence de M. Crisparkle. Elle était habillée pour sortir, et le tissu léger de son chapeau s'harmonisait merveilleusement avec la teinte chaude de ses joues et l'éclat de ses yeux bruns. Son costume, serré à la taille, faisait valoir son buste souple et sa taille élancée. Ses yeux étaient plus doux que de coutume et plus près du sourire. Aux yeux d'un observateur attentif, elle était moins qu'à l'ordinaire peut-être, la vive et dangereuse fille des tropiques, et bien plus la femme exquise qui sent le besoin du bonheur et des facultés nouvelles pour en jouir. Ce bonheur, un seul être au monde devait le lui donner, et le jour n'était plus éloigné peut-être. Il y avait en elle un changement depuis que M. Crisparkle ne l'avait vue. Ce changement, d'où venait-il ? Ce qui restait en elle du sang de tigre n'était plus qu'une goutte en comparaison du sang nouveau qui faisait battre son cœur. Mais ce qui n'avait point changé, c'était l'énergie naturelle qui la portait à des actions fortes et vaillantes. La chasse donnée au criminel pour lui arracher l'aveu de son crime n'avait pas épuisé son courage. Joe Guilford n'avait peut-être pas encore tout à fait déposé son dangereux déguisement. Le chanoine remarqua-t-il cette métamorphose qui rendait certainement la jeune fille plus séduisante et plus belle, et par conséquent plus dangereuse pour ses yeux ? Peut-être aussi la conversation précédente l'avait-elle rendue plus susceptible à de certaines influences et moins vigilant que de coutume à s'observer lui-même. Il est certain, en tout cas, qu'il était désarmé. La bergère en porcelaine de Chine, si elle avait été présente, aurait vu toutes ses craintes renouvelées, surtout en songeant que les facultés curatives de l'armoire du second étage seraient en cette occasion impuissantes sur le chanoine. En reconnaissant le visiteur de son frère, qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs semaines, elle s'avança et lui tendit les deux mains, avec des paroles d'affection et de respect, dont elle ne gratifiait personne plus volontiers que le chanoine. Il rougit, pâlit, trembla, balbutia quelques mots. Il perdit enfin si complètement son sang-froid que si Helena put n'attribuer cette émotion du professeur et de l'ami qu'en l'embarras causé par l'arrivée subite d'une femme au milieu d'une conversation intéressante, apparemment, son frère aurait été aveugle de ne point voir autre chose et de ne pas observer ses signes expressifs et parlants. « C'est un grand plaisir pour moi de vous voir si gaie et si bien portante, mademoiselle Landless, dit enfin l'ecclésiastique en se remettant un peu. Un plaisir presque aussi grand, si vous voulez bien excuser le peu de galanterie de cette comparaison, que de trouver votre frère si bien remis et si différent d'autrefois. N'est-ce pas ? Il a fait de merveilleux progrès grâce à la bonté de nos amis, dont vous serez toujours le premier, cher monsieur Crisparkle, répondit-elle, ne sachant guère quel plaisir ce langage affectueux faisait au chanoine. Mais, à ce propos, Neville m'a dit que vous étiez venu le voir plusieurs fois, j'ai toujours eu le chagrin de ne pas me trouver là. Je vous en prie, ne lui permettez pas de vous absorber ainsi. Souvenez-vous que son amitié n'est pas de plus vieille date que la mienne, que vous lui accordez trop de préférence, et que je pourrais me montrer à ses femmes pour être jalouse de mon frère. » M. Crisparkle, encore hypocrite mais plaidant pour lui les mêmes circonstances atténuantes, se rejeta sur ses devoirs professionnels, ce qui n'expliquait pas du tout pourquoi il évitait de rencontrer la jeune fille quand il venait voir son frère, terminant en exprimant ses regrets. Les regrets étaient réels si l'excuse manquait de franchise, qu'un accident ou ses occupations ne lui permissent pas de jouir plus souvent du plaisir de la voir. Quelques mots encore, aussi simples, n'ayant en eux-mêmes aucun prix particulier, si ce n'est à cause des lèvres qui les prononcent et leur donnent une valeur inappréciable, et puis un adieu au chanoine, aussi chaleureux que l'avait été son salut d'arrivée, un baiser à son frère, enfin Helena sortit, laissant les deux hommes dans une position différente l'un envers l'autre que celle où ils se trouvaient avant la visite de la jeune fille. Le silence régna quelque temps entre eux après son départ. Ils étaient debout tous deux, le chanoine s'étant levé pour dire adieu à mademoiselle Landless et Neville l'ayant accompagné jusqu'à la porte. Tous deux étaient fort troublés par la croyance de chacun, chose assez naturelle, car nous sommes ici dans la vie commune, non au théâtre, qu'ils savaient ce que l'autre ne pouvait pas même soupçonner et qu'il en pouvait naître entre eux quelque embarras. Ce lourd silence fut rompu par Neville, dont la franche droiture prouva que s'il avait essayé autrefois de se tromper lui-même, il n'avait jamais eu l'intention de tromper les autres. Il s'avança vers M. Crisparkle, lui prit les deux mains et prononça quelques paroles que le chanoine ne devait jamais oublier, paroles douces et terribles qu'il fut heureux d'entendre une fois, mais qu'il n'aurait jamais provoquées, jamais, jamais. « Pardonnez-moi, monsieur, dit-il, et pardonnez-lui. Nous ne savions pas l'un et l'autre ce que nous faisions. » Le révérend Septimus Crisparkle était le dernier des hommes enclins à se servir d'un subterfuge quand il pouvait l'éviter. Nous l'avons vu pourtant déjà se prêter à certains déguisements de la vérité qu'il croyait méritoires ou nécessaires. Il était homme, enfin, et la nature humaine d'un chanoine même, quelque bien disciplinée qu'elle fût par des exercices physiques et moraux, ne lui permit pas encore d'être sincère. Sûrement, il y avait un grand manque de candeur dans sa réponse à Neville. « Vous pardonnez, à elle et à vous ? Que signifie cela, Neville ?»« Je vous en prie, monsieur, ne me rendez pas plus difficile à exprimer ce qu'il est de mon devoir de vous dire. Ne me faites pas sentir que je touche à des choses auxquelles je ne devrais pas toucher, » répliqua le jeune homme d'un ton ému. « Oui, je vous en prie, pardonnez-moi et pardonnez-lui. » Le chanoine rougit et pâlit tour à tour, puis la rougeur diminua sur ses joues si fraîches, la même rougeur qu'il avait trahie le jour de sa confidence à sa mère. Il aurait aussi bien pu avoir 17 ans que l'âge viril qui calme, dit-on, le sang et la pensée. Il essaya de parler, mais il ne le put, ou bien il jugea prudent d'éviter de parler au hasard, et Neville reprit « Je vous offense peut-être, monsieur, mais je ne puis m'empêcher de vous dire « Ah, vous avez été trop franc et trop bon pour moi. Encore une fois, pardonnez-moi d'avoir placé ma sœur sur le chemin de votre vie si heureuse et si occupée, et pardonnez-lui de n'avoir pas pour vous d'autres sentiments. » « Vous soupçonnez, Neville, mon cher ami !»« Pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur, je ne soupçonne rien. » Depuis 10 minutes, je sais, avec un orgueil et une honte, que les mots sont incapables de rendre, que vous aimez ma sœur. » La physionomie du chanoine était plus troublée en ce moment qu'il ne lui était jamais arrivé de l'être, mais il se tut et Neville continua. « Il y a un mois, monsieur, j'aurais oublié mon propre chagrin si j'avais deviné qu'Héléna eût éveillé un pareil attachement dans le cœur de l'homme que j'aurais été si fier d'appeler mon frère. » Aujourd'hui, j'en suis malheureux, car je sais qu'il ne peut en résulter pour vous que des chagrins. Oh, je sais que je vous offense, mais il faut que je fasse mon devoir. Oui, monsieur, ma sœur a un autre attachement, et elle ne pourrait jamais être votre femme, même si, la connaissant et sachant combien elle est bonne et franche, vous la jugiez digne de cet honneur. Un honneur ? S'écria le chanoine, avec un mouvement qui ressemblait bien à de la colère. Un honneur ? Quel mot en parlant d'une telle femme ? Un honneur ? Quel homme pourrait faire honneur à Héléna en lui demandant de partager sa vie ? Lui offrit-il même une couronne ? Les écluses étaient ouvertes et le chanoine parla, et ses pensées se succédèrent sans la moindre apparence d'hésitation ou d'embarras. « Non, Neville, on ne ferait pas honneur à votre sœur, même en mourant à ses pieds. Vous avez découvert mon secret. » « Comment ? Je ne puis le deviner, et je reconnais, non pas ma faiblesse, ah, plutôt mon orgueil. Elle a un attachement, dites-vous. J'en remercie Dieu, car il ne peut être que digne d'elle. Elle remplira sa destinée de femme et sera heureuse. Dieu la bénisse et la garde, et la rende parfaite comme elle mérite de l'être, maintenant et toujours. » « Oh, monsieur, si je pouvais tout vous dire !» s'écria Neville, se demandant s'il avait ou non le droit de désabuser l'ecclésiastique à propos du bonheur supposé d'Hélène. Mais il n'eut pas le loisir de continuer, le chanoine lui tendit la main en disant « Donnez-moi encore la main, mon cher jeune ami. Oui, non seulement vous êtes mon ami, mais vous êtes le frère de la plus noble femme que j'ai jamais connue, de la femme que j'aurais été fier d'appeler ma femme si cela eût été possible. » Mais cela ne l'est pas, je le savais depuis le premier jour. J'ai trahi mon secret et j'en suis fâché parce qu'il contribuera peut-être à augmenter votre chagrin. Il ne faut pas qu'il augmente le sien, ni qu'il embarrasse la route d'un bonheur qu'elle peut atteindre. Promettez-moi, si vous me regardez comme votre ami, que pas un mot de tout ceci ne sortira de vos lèvres. Vous me ferez cette promesse, je le sais, Neville, pour l'amour d'elle. »
Je vous la fais, monsieur, solennellement et avec une douleur que je ne puis exprimer d'être forcé de vous faire, répondit Neville en serrant la main que lui tendait le chanoine.
En vous la faisant et en reconnaissant combien vous êtes bon et noble envers nous, j'ajouterai un mot pour confesser combien j'ai été aveugle ou étourdi tout à l'heure quand je me vantais de connaître une douleur par laquelle vous n'aviez point passé.
Oubliez-le, monsieur, et faites la part de la présomption et de l'arrogance de la jeunesse.
J'oublierai ce que vous souhaitez que j'oublie, Neville. Je me souviendrai seulement ce que vous souhaitez me voir garder dans mes souvenirs, dit le chanoine, revenant au ton joyeux et aux manières tranquilles qui lui étaient ordinaires, comme un homme assez sage pour déposer un fardeau qu'il ne peut porter.
Il faut que je vous quitte dans quelques instants. Nous avons trop parlé de moi et trop peu de vous.
Où en êtes-vous de ces études qui vous ont fait tant de bien et qui doivent, avec le temps, vous mériter une place dans le monde? Êtes-vous sur le point d'entreprendre cette tâche honorable mais difficile, de prouver à Milord, les membres intelligents du jury, que 4 et 1 font 6, ou que M. Thompson, écrivant ceci, a évidemment voulu dire cela et pas autre chose?
Neville Landless resta un moment sans répondre, à l'exemple du chanoine un moment avant. Il y avait quelque chose d'étrange, de joyeusement solennel sur sa jeune et belle figure, quand, au bout d'une minute, il releva les livres épars sur sa table et les posa sur la tranche, de façon à permettre au chanoine d'en lire le titre sur le dos. La dernière fois qu'il était venu le visiter, le chanoine l'avait trouvé fort occupé à étudier Shelley et Blackstone et Colk sur Littleton, et d'autres ouvrages élémentaires par lesquels on suppose que doit se fonder, dans l'esprit des étudiants, cette perfection de la raison humaine, la loi. Que voyait-il à présent? Le pieux vieillard George Herbert, les saintes vies et les saintes morts, un volume des sermons de Jérémie Taylor, autrefois évêque de Donconor, et Dromore, Pellet, Butter et Hooker. Une collection d'armes bien différentes et destinée à une autre bataille. Il n'est pas étonnant que le chanoine regardât tout cela d'un air surpris, mais le révérend Septimus Crisparkle n'avait pas la pénétration lente, il s'en fallait bien, et il ne manquait point du tout de certains esprits de corps qui appartiennent également à toutes les professions. Aussi, l'air de satisfaction qui se mêla bientôt à sa surprise et la remplaça peu à peu, parut-elle bien naturelle. Il dit alors d'une voix basse et concentrée « Neville, mon jeune ami, qu'est-ce que cela veut dire ?»«
Tout simplement, monsieur, » répondit Neville. « Ah, les heures de solitude comparative, oui, et de misère aussi, m'ont fait entrer en communion plus intime avec mon cœur. Je me suis persuadé qu'une main plus puissante que la mienne et beaucoup plus sage m'avait dirigé vers le sentier que je dois suivre. J'ai entendu, il y a bien longtemps, ma chère sœur me dire quelques mots qu'elle a sans doute oubliés. Ce sont ces mots-là qui maintenant dominent les bruits extérieurs et qui résonnent jusque dans mon grand sommeil.
Suivez votre guide, Neville, et suivez-le jusqu'au ciel.
Oui, je veux l'essayer, monsieur. Ma vie est brisée, en sorte que le sacrifice que j'offre est bien petit, mais telle qu'elle est, j'en fais l'offrande. Je suivrai cette voie qu'Héléna m'a indiquée sans y réfléchir, et peut-être viendra le jour où je pourrai à mon tour mener à Dieu quelque pauvre être brisé en lui montrant, à l'aide de la vérité, le chemin qui mène à la vie. »
Le chanoine garda encore le silence quelques minutes, et quand il parla, Neville était à genoux devant lui, il levait vers lui son beau visage. Le chanoine étendit ses deux mains sur sa tête brune.
« Que son nom soit loué, que sa bénédiction et sa paix descendent sur vous, mon cher ami et mon véritable frère. »
On frappa de nouveau à la porte. Le jeune homme se releva et essuya rapidement les larmes qu'une émotion si vive avait fait couler. Ce nouveau visiteur, c'était M. Grudges, dont la figure anguleuse s'arrondit de plaisir en apercevant M. Crisparkle et qui se mit à parler sans la moindre sécheresse angulaire.
« Je suis enchanté, révérend monsieur, de vous rencontrer. Monsieur Landless, pardonnez-moi mon intrusion ici. Mais j'ai pour excuse une affaire qui réclame votre attention, ce matin. Oh, rien qui presse. Révérend monsieur, j'espère que vous avez fait un bon voyage et que l'excellente dame, votre mère, est en bonne santé. » C'était dans cette chambre modeste le trio des désappointés, mais aussi, plus et mieux que cela, le trio des braves cœurs, patients et déterminés, malgré la déception la plus difficile à supporter pour l'humaine nature, trois amoureux, point payé de retour. Jadis, courait par le monde une gentille légende. On racontait que, par un enchaînement bizarre de circonstances, trois rois sans royaume s'étaient rencontrés et avaient passé la nuit ensemble dans un pauvre petit hameau des montagnes allemandes. Chacun d'eux ignorait le rang de ses compagnons. Eh bien, cette scène était-elle plus pittoresque ou plus instructive que la rencontre de nos trois amis? Chacun d'eux seulement n'ignorait plus ce qui se passait dans le cœur de l'autre. Tous trois portaient d'un air si calme qu'on ne pouvait en soupçonner l'existence, sur des fronts si différents, la guirlande desséchée d'une espérance morte.